La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani avec Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, intellectuel engagé, mais aussi directeur d'une revue qu'il a fondée, La Règle du jeu, qui d'ailleurs est présentée aujourd'hui sous une nouvelle version, beaucoup plus attrayante, beaucoup plus séduisante que dans sa version précédente, et qui va dialoguer évidemment avec le directeur de la revue Commentaire, Jean-Claude Casanova, bien évidemment. Bernard-Henri Lévy, parce que il publie. Bernard-Henri Lévy note tout, écrit tout, parle beaucoup, écrit beaucoup, et ça donne. Chez Grasset, un livre intitulé « Pièces » au pluriel d'identité qui rassemble sur les 5 dernières années la plupart des interventions de Bernard-Henri Lévy et puis accompagné d'un livre plus petit par sa taille et par son volume, peut-être pas par son contenu, qui s'appelle « De la guerre en philosophie » qui est aussi publié chez Grasset. Alors « De la guerre en philosophie », on va peut-être pas trop s'y attarder encore que parce que c'est plutôt un livre qui, si j'ai bien compris, vous permet de vous repositionner, enfin, de nous redire ce qu'est à vos yeux l'intellectuel engagé, pourquoi, comment, et vous vous resituez dans le paysage actuel. Pièce d'identité, c'est vraiment, ça nous permet vraiment de reparcourir les 5 années d'histoire la plus récente. Et donc avec vos propres balises évidemment, mais ça nous permet de revenir sur un certain nombre d'éléments d'actualité forte et de les commenter ou de faire un bout de chemin avec vous. Donc nous allons plutôt, Jean-Claude Casanova et moi-même, parcourir quelques-unes des étapes de ce livre-là, Pièce d'identité, mais on va peut-être aussi dire un mot de la guerre en philosophie, Jean-Claude Casanova.
C'est un essai que j'ai bien aimé lire, parce que ça se lit très facilement. Évidemment, vous êtes d'une famille philosophique où on parle de soi-même. Donc c'est votre propre itinéraire et vos rencontres, les influences que vous avez subies, vos réactions, ces influences sont présentes, Althusser, Foucault, les philosophes classiques, Platon revient, etc. Et vous avez fait l'objet d'une polémique un peu ridicule sur... je ne connaissais pas moi non plus ce livre d'ailleurs, vous me l'avez fait connaître, mais ça m'a fait penser, du coup je l'ai sorti de la bibliothèque et relu hier soir, au dernier jour d'Emmanuel Kant par Thomas de Quincey. C'est exactement, je pense que l'auteur que vous avez cité...
s'appelle Botulle. Botulle, mais qui est un pseudonyme,
oui, bon,
donc,
très bien,
dont mais... on ne savait pas que c'était en fait un journaliste du Canard Enchaîné, pour mais rappeler
c'est...
les... Pour rappeler
c'est
les...
Sans doute
alors
que...
s'en est suivi toute une petite
Kant
polémique
appelle...
autour de... voilà, Bernard-Henri Lévy s'est fait piéger, nous a raconté qu'il prenait pour un philosophe quelqu'un qui n'était pas, etc.
Oui, bon.
Donc voilà le contexte.
Je crois que Kant appelle ça d'une certaine façon, c'est un immense génie, quelque chose d'un peu immortel, d'un peu immuable, et du coup on veut le ramener à la vie réelle. Alors ce Botulle en question le ramène à la sexualité, et Quincey le ramène à la mort, tout simplement, et c'est évidemment des œuvres d'imagination, pourquoi pas, mais enfin ça ne méritait pas ce détour polémique. Mais
je crois, oui, je crois que ça ne le méritait pas, parce qu'après tout, so what, je veux dire, c'est... un bon livre est un bon livre. Il y a 5 ans, l'auteur s'appelait Botulle. Aujourd'hui, on apprend qu'il s'appelle Pagès. Ça ne change pas le fait que le livre est bon et que, et évidemment, je ne changerai pas un quart de ligne des réimpressions futures de ce livre. Cette polémique est à la fois étrange et c'est assez tordante par le panurgisme d'un certain nombre de commentateurs qui se sont engouffrés là-dedans comme si c'était l'affaire du siècle. Enfin.
Oui, mais est-ce que... j'ai juste une question à vous poser, on va pas... Dans ce livre, il y a une justification, une explication de vos engagements, de la philosophie. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça, la grande philosophie. Mais est-ce que vous approchez de plus de sérénité aujourd'hui? Il y a comme dans ce livre, comme l'idée de la philosophie éternelle, enfin l'idée qu'il faut revenir aux questions essentielles, ou c'est plus important que l'engagement ou moins?
Non. La sérénité, je crois que je n'y suis pas encore. Et non, j'essaie de dire au contraire dans ce livre comment, dans les engagements, je reste philosophe. Un corps martyrisé d'une guerre oubliée d'Afrique, c'est un objet pour le, si j'ose dire, hein, c'est aussi un objet pour le philosophe. Que lire Lévinas, c'est aussi faire du Lévinas appliqué. dans des situations dont il m'est arrivé de témoigner et dont la caractéristique est l'effacement des visages. Le concept de visage de Lévinas, ce livre, dans De la guerre en philosophie, ma thèse, c'est que j'en fais quelque chose quand je fais des grands reportages autrefois pour Le Monde, pour le New York Times, etc.
Non, mais ça me fait penser, je vous pose la question, parce que Aron, puisque vous y faites allusion dans vos dédicaces, en parlant de Simone Veil, disait « c'est plus un esprit religieux qu'un esprit philosophique parce qu'elle porte sur elle-même toute la souffrance du monde ». Et vous, tout crime dans le monde, ou toute tension dans le monde, ou toute injustice dans le monde, vous émeut, et en ce sens, vous êtes aussi religieux que philosophe.
Bernard-Henri Lévy.
Oui, moi, je ne sais pas si on peut dire religieux, mais parce que je ne suis pas un tempérament religieux. Je suis vraiment, et ce livre plaide aussi pour ça d'ailleurs, un tempérament laïque et même athée. Mais c'est vrai que depuis 40 ans même, oui, j'ai là cette espèce de manie bizarre depuis l'époque du Bangladesh il y a 38 ans, d'aller aux quatre coins du monde, là où j'ai le sentiment, en effet, que l'humanité, que l'idée même d'humanité est en péril à travers des corps singuliers. Et dans ce petit livre, j'essaye aussi de me demander pourquoi, qu'est-ce qui fait ça ? Alors c'est pas lié à ma vertu, hein, mais c'est lié à des textes que j'ai dans la tête, et en particulier les textes dont je parle dans l'autre livre, alors qui sont les textes de la tradition juive.
On va y revenir, parce qu'il y a tout un morceau dans Pièce d'identité qui a trait justement au judaïsme, à la tradition juive.
Et au génie du judaïsme.
Que vous baptisez le génie du judaïsme, qui est un très gros morceau dans le livre. C'est un livre, en fait, dans le livre. Restons juste un mot sur ce petit précis de philosophie. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, mais vous me direz que la contradiction est peut-être aisée à surmonter. C'est votre éloge, comme le titre du livre d'ailleurs, votre éloge de la guerre en philosophie, et vous plaidez pour une forme de radicalité, en philosophie en tout cas, qui est totalement contraire, me semble-t-il, à vos engagements tels que j'ai pu les percevoir. Si je prends par exemple l'incarnation de la radicalité en philosophie aujourd'hui, c'est plutôt Badiou. Vous êtes à l'opposé, et donc vous plaidez plutôt pour une vision de la vie publique qui soit pacifiée et non pas qui cherche la radicalité, les angles, les affrontements, la haine comme moteur, etc. Et curieusement, dans ce livre, voilà que vous faites l'éloge de la radicalité, voire des angles les plus aigus possibles, voire de la haine parfois, etc.
Je dis la colère.
Voilà, mais comment concilier cela ? Enfin, comment comprendre ?
Je crois que c'est la même chose et que les deux sont totalement liés. Pour arriver, ce qui est mon but, en effet, à une vie sociale, politique, pacifiée, où triomphent les points de vue modérés, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai horreur des radicalités meurtrières, j'ai très peur des phénomènes de lynchage collectif.
Vous n'êtes pas du parti de la terreur, ça, c'est clair.
Je suis un Girondin, je suis un antiterroriste sous toutes ses formes, tout cela va de soi. Mais cela, pour que cela soit, il faut dans l'ordre de la philosophie que les idées s'expriment, qu'elles s'opposent avec beaucoup de force, y compris l'opposition à ce type d'idées-là. Moi, depuis 32 ans, depuis la barbarie visage humain jusqu'à aujourd'hui, je m'oppose avec toute la force dont je suis capable, sans compromis, sans merci, à ces pensées totalitaires. Alors, vous comprenez, exemple précis aujourd'hui. Pour que l'espace démocratique fonctionne, pour que cette affaire, par exemple, de savoir si la burqa peut être à sa place ou pas dans l'espace public, s'il est choquant ou non que des jeunes femmes voilées soient candidates à des élections régionales, pour que tout cela soit pensé politiquement, je crois qu'il faut en amont un travail philosophique, un travail sur les principes sans concession. Et qui affronte l'adversaire, c'est-à-dire en gros le différentialiste, celui qui au nom de la tolérance est en train de faire l'éloge de l'intégrisme, il faut qu'il soit affronté de manière frontale et avec beaucoup de radicalité. Donc je dirais de la radicalité en philosophie pour en faire l'économie en politique.
Jean-Claude Casanova.
Et de la radicalité à l'égard dans le monde de ce qui est tyrannique, belliciste, etc. Badiou, lui, c'est, si j'ose dire, la vieille radicalité interne, c'est-à-dire les sociétés occidentales, capitalistes, sont dominées par la lutte de classe, toutes les idées exprimées sont des falsifications, etc. C'est une version du communisme sans la plus-value. Quoi. C'est...
Bernard-Henri Lévy.
Oui, Alain Badiou, c'est un intellectuel important, respectable, mais c'est aussi une pensée radicale au sens où je crois qu'il convient d'être radical, mais au service de la radicalité politique. Lui, ce qu'il plaide en effet, c'est une pensée en colère qui plaide pour une société mise à feu et animée par des passions terribles, par des passions terroristes. C'est une apologie de la terreur, au fond, même s'il n'en conviendrait peut-être pas.
Dans des sociétés plutôt pacifiées.
Dans des sociétés, oui, enfin, dont il aimerait qu'elles ne soient plus pacifiées. Donc voilà, et en effet, c'est même plus compliqué que du marxisme. Hein. C'est un néo-marxisme. En tout cas, c'est clairement cette pensée-là, la pensée d'Alain Badiou et de quelques autres, c'est clairement la cible. Si j'avais à désigner aujourd'hui mes adversaires, parce que quand on dit de la guerre en philosophie, la guerre contre qui ? Eh bien, c'est en particulier ceux-là qui sont en train de nous ressortir des limbes ce qu'ils appellent l'hypothèse communiste, qui exerce une vraie séduction sur une partie de l'intelligentsia, y compris, j'entends parfois, sur cette antenne. Et je crois que ça,
l'antenne de France Culture, je précise.
Oui, c'est l'antenne de France Culture.
C'est un pré-communisme qui a deux racines, si vous voulez. Une, la vieille racine française, qui me frappe toujours en lisant ces textes, c'est-à-dire ils sont exactement à la période de la terreur. Ils sont à 92, 93, 94, l'égalité absolue, la menace, etc. Et en même temps, c'est une partie radicale un peu hantée sur le Moyen-Orient et disons... condamnant Israël d'une certaine façon, de façon plus ou moins dissimulée ou plus ou moins ouverte, mais présentant Israël comme le fauteur de troubles essentiels du Moyen-Orient.
Ce qui me semble caractéristique dans ce courant de pensée, c'est ce que vous dites, oui, mais peut-être, je le dirais peut-être de manière différente, c'est la façon de voir le monde à travers les lunettes d'un grand récit unique, qui est l'opposition... de l'Empire et de ses laquais, c'est-à-dire en effet l'Amérique et Israël. Et puis ceux qui s'y opposent, c'est-à-dire quelques peuples choisis, désignés, sur lesquels s'est posé le doigt de Dieu de l'anti-impérialisme. Et le problème de cette démarche, c'est qu'évidemment, ceux qui n'entrent pas dans cette épure-là, les peuples souffrants ou les peuples martyrs, qui n'ont pas le bonheur d'être des peuples en lutte contre l'américano-sionisme, cela n'existe pas, ils tombent à la trappe. Et Alain Badiou, puisque vous en parlez, et que j'en parle aussi dans De la guerre en philosophie, a eu un jour cette phrase que j'épingle, mais qui est terrible et qui résume bien cette position, il y a longtemps d'ailleurs, à propos du Kosovo et de la Bosnie. Il dit... Quelqu'un lui demande peut-être, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ces peuples qui n'entrent pas dans le cadre de l'Amérique versus ses ennemis ? Ils luttent pas contre l'impérialisme américain et pourtant ils sont l'objet d'une vraie oppression par un personnage peu recommandable qui est Milosevic. Et Badiou répond, eh bien, qu'on les laisse à leur arène. L'opposition des Kosovars et des Serbes à l'époque, probablement aujourd'hui, il le dirait de la même manière, de l'opposition des Soudanais de Khartoum et des Darfouris. Qu'on les laisse à leur arène, qu'on les laisse se débrouiller entre eux. Ils n'ont pas les honneurs de l'historico-mondial tel qu'il est aujourd'hui structuré entre l'Empire et les anti-empires. Donc c'est ça qui est terrible dans cette vision... radical du monde et dans cette radicalité meurtrière-là, c'est la désinvolture extraordinaire avec laquelle elle traite, au fond, toute une partie de l'humanité.
Alors, en vous écoutant l'un et l'autre, je me dis, Jean-Claude Casanova, directeur de commentaires, qui est le temple aronien, Bernard-Henri Lévy, qui devrait être aronien, parce que vos propos vous rapprochent beaucoup, et pourtant vous êtes plus sartrien, en tout cas dans vos... position de principe que vous n'êtes aronien. Donc là, il y a à nouveau une contradiction qui me paraît intéressante à soulever. Et dans la foulée de tout ce que vous venez de dire, Bernard-Henri Lévy, j'ai envie de vous demander est-ce que vous êtes vraiment de gauche ? Voilà. Et donc, si vous êtes vraiment de gauche, mais de quelle gauche êtes-vous ? À moins que vous ne soyez plus catalogable de cette façon-là, ce qui est évidemment une autre vision des choses, Bernard-Henri Lévy.
Moi, en tout cas, je n'aime pas me cataloguer. J'aime pas ça parce qu'à l'instant même où je le fais, j'ai l'impression de laisser en plan toute une partie de ce que je suis et de ce que je pense. Mais enfin, s'il faut choisir, évidemment, oui, je suis de gauche. S'il faut ma famille, ma tradition, mes maîtres, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude Casanova, appartiennent à cette tradition-là, je suis de gauche parce qu'en effet, entre Sartre et Aron, c'est tout de même Sartre que je choisis. Alors, mon Sartre, celui que je raconte encore
oui,
dans
c'est un Sartre
dans
partiel.
D'identité. Pas partiel, mais c'est un Sartre qui, dépoussiéré de tout ce dont il s'est lui-même affublé, c'est-à-dire cette radicalité encore un peu grotesque de la fin, moi c'est le Sartre pessimiste, c'est le Sartre qui croit en une humanité définitivement boiteuse, c'est le Sartre qui ne croit pas qu'on va liquider le mal dans les sociétés, c'est un Sartre, alors là pour le coup, très imprégné, lui, de pensée religieuse,
absolument.
Oui. De pensée religieuse, de la obséder par la question du mal. Voilà. Alors, en quel sens je suis de gauche ? C'est des réflexes, la gauche. Et notamment, alors on m'accuse souvent d'être. J'ai eu le malheur un jour de dire, par honnêteté, que comme tout intellectuel, comme tout mandarin, je suis un peu sourd à la question sociale. Ce qui me semble être la première des honnêtetés. Rien ne m'est plus odieux que l'hypocrisie et la tartufferie du grand mandarin. Je pense autrefois, par exemple, à Bourdieu, paix à son âme, qui prétend, du haut de ses palmes académiques, qui prétend être l'oracle de la misère sociale. Non, moi, je suis beaucoup plus modeste. Je sais que c'est compliqué, que les intellectuels ne sont pas branchés comme des pitis en direct sur la misère sociale. Donc, j'ai eu le malheur un jour de confesser cela qu'on me ressort souvent. Néanmoins, être de gauche, ça veut dire que quand il m'arrive de m'y intéresser, ce qui est le cas notamment dans Pièces d'identité, où il y a un gros chapitre sur les nouvelles pauvretés, eh bien voilà, je fais partie de ceux qui pensent que les pauvretés nouvelles, celles qui semblent réactiver les vieilles oppositions dont Guéremec parlait entre les pauvretés assimilables à l'espace social et inassimilables, et inassimilables, elles me paraissent moins un scandale, elles ne me paraissent pas être dans l'ordre des choses. Je m'y fais pas. Être de gauche, c'est dire je m'y fais pas.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, défini comme ça, je comprends tout à fait la position de Bernard-Henri Lévy. Si on définit la gauche comme la position qui, dans les sociétés démocratiques, consiste à être plus attentif aux différences, aux difficultés sociales, plus attentif aux faibles, etc., ce qui est une attitude un peu religieuse, d'une certaine façon, c'est-à-dire qui postule une égalité profonde des hommes et la volonté de renforcer cette égalité ou d'éviter les injustices et les inégalités, c'est tout à fait légitime et parfaitement compréhensible. Mais le problème de la gauche dans le débat philosophico-historique, puisque vous avez mentionné Sartre, le conflit entre Aron et Sartre, il n'est pas là-dessus, le conflit entre Aron et Sartre. Aron admirait d'ailleurs Sartre philosophe et admirait Sartre écrivain, mais il ne prenait pas au sérieux Sartre politique, parce que dans la radicalité de gauche de Sartre, il y a un philosophe de la liberté qui admire le communisme dans ses pires aspects, un philosophe de la liberté qui admire Castro, et un philosophe de la liberté qui admire Mao Tse-Tung. Et Aron ne prenait pas ça au sérieux, était polémique, extrêmement sévère à l'égard de Sartre, autrement dit, était hostile au Sartre politique, qu'on peut comprendre philosophiquement d'une certaine façon. Il y avait chez Sartre un anti-bourgeoisisme, un anti-conformisme et un côté mauvais garçon, refusant absolument la société un peu hypocrite telle qu'elle est. Mais vous avez fait allusion à ce qu'un écrivain que vous n'aimez pas, qui est Peggy, a très justement appelé le Tartuffe humanitaire. Et Peggy disait, le Tartuffe humanitaire sera pire que l'autre, ce qui est assez vrai, je crois. Aujourd'hui, nous sommes envahis de Tartuffe humanitaire, c'est-à-dire de gens qui se donnent bonne conscience par des dénonciations sociales de ce type. Mais je ne vois pas de, si vous voulez, par admiration pour Sartre légitime, Sartre n'est pas un esprit négligeable, c'est un esprit très important pour la France, pour la tradition littéraire et philosophique. Vous ne couvrez pas, vous n'admettez pas les positions politiques de Sartre, donc c'est entre vous et Aron, il y a une différence de degré, mais pas une différence de nature.
Mais la politique et la philosophie sont souvent mêlées. On va prendre un autre exemple, et un exemple intéressant parce que les deux étaient apparemment d'accord. Et en vérité, je crois qu'ils ne l'étaient pas. C'est l'exemple de la guerre d'Algérie, où ils ont eu facialement des positions voisines, puisque l'un comme l'autre était partisan de l'indépendance de l'Algérie, et assez tôt, compris d'ailleurs par rapport même au Parti communiste, qui est venu beaucoup plus tard. Bien.
Il y a rond 57-58.
Voilà. Mais quand on regarde les choses dans le détail, quand on regarde vraiment les textes, ils l'étaient pour des raisons, au fond, différentes et même presque adverses, où on voit bien comment les deux tempéraments s'opposaient. Je vais caricaturer Aron, mais je vais caricaturer Sartre aussi, donc permettez-moi. La position d'Aron était en gros de dire « c'est pas raisonnable, on n'a plus les moyens, le siècle qui est en train d'arriver à son mi-temps ne peut plus être raisonnablement le siècle de ces grands empires, lourds à porter, etc. etc. » Sartre disait « c'est révoltant ». C'est abominable, c'est une humiliation sans nom et sans la moindre justification, et il faut coûte que coûte, même si c'était raisonnable, il faut coûte que coûte s'en débarrasser. Donc pour moi, voilà, c'est, là vous avez un cas très intéressant, où d'un côté, c'est pas la question mauvais garçon, mais le point de vue de la rationalité qui est évidemment intéressant, qui n'est pas méprisable, cette espèce de passion de la raison qu'a eu Aron toute sa vie, c'est, il y a une espèce de grandeur. Et puis, il y a de l'autre côté la révolte contre l'intolérable, qui était la passion fondamentale de Sartre et qui, c'est vrai, m'interpelle davantage.
Oui, mais Jean-Claude Casanova, si on prend cet exemple, la différence entre Sartre et Aron, elle est simple, je crois, à exprimer. Aron connaît aussi bien que Sartre les injustices qui peuvent exister dans les sociétés coloniales, mais il connaît les injustices qui existent partout, et donc il a le même degré de sévérité à l'égard de toutes les injustices, tandis que Sartre focalise, voit certaines injustices et en oublie d'autres. Et la deuxième différence fondamentale, qui est l'exaltation de Sartre, jamais Aron ne pourrait accepter ce qu'est la préface de Sartre à Fanon. Le texte, on ne peut pas dire autrement, délirant de Sartre, puisque c'est une justification de l'assassinat. Il approuve l'assassinat. Là, il y a une espèce de dérapage philosophique dont on ne sait pas quelle est la part mélodramatique, personnelle et réelle. Je crois que Sartre n'aurait assassiné personne. Mais
il y avait une folie de Sartre.
Bernard-Henri Lévy.
Vous voyez bien, il y a chez Aron, Aron n'aime pas l'intellectuel un peu irresponsable. On ne doit dire que des choses que l'on peut faire ou que l'on souhaite qu'ils soient faites. Mais la glorification, c'est comme les gens qui admirent Sade. Vous comprenez, la glorification de l'assassinat ou de la violence ou de la meurtrissure, c'est un tout petit peu absurde.
Sade, c'est autre chose. C'est aussi un très grand écrivain. Qui montre le mal aussi de manière cathartique, etc. Mais dans le cas de Sartre, bien sûr qu'il y a au moins deux Sartre. Il y a un texte d'ailleurs dans mon livre qui s'appelle « Deux Sartre ou trois », où j'avance un petit peu par rapport aux analyses que j'avais développées dans le siècle de Sartre. Alors, c'est vrai qu'il y a un Sartre fou. Le Sartre de la préface aux damnés de la terre, celui qui dit que quand un colonisé tue un colonisateur, il fait d'une pierre deux coups, c'est un oppresseur qui disparaît et un homme libre qui surgit. Ce Sartre-là est proprement dément, c'est un possédé.
C'est un Sartre terroriste.
C'est un possédé. Bien sûr.
Mais je ne sais pas quelle est la part de... Est-ce qu'il disait ça sérieusement? Quelle est la part de comédie littéraire? Parce que dans la littérature française, il y a tellement de cette exaltation romantico-héroïque non réservée.
Et notamment dans ces années-là, d'ailleurs, parce que l'idée de le terrorisme de papier, les revolvers chargés de mots. Rappelez-vous la phrase des surréalistes, ou d'André Breton lui-même d'ailleurs, je crois, disent tenant que l'acte surréaliste le plus simple, ou peut-être une phrase d'Ada, je ne sais plus, consistait à descendre dans la rue, place de la Concorde, et de décharger son revolver à bout portant. Ou Alfred Jarry qui, tirant des coups de pistolet dans le jardin de sa voisine, se plaignant qu'il risquât ainsi d'atteindre son petit garçon, lui dit « Mais madame, nous en vous referons d'autres, des enfants. » Donc, bien sûr qu'il y a cette espèce de fascination très trouble dans ces années, dont heureusement l'intelligentsia s'est guérie. Pour
et qui
une...
fait la supériorité de Camus à certains égards sur Sartre. Si
sur ce point-là, bien sûr, oui, oui. Moi, je crois, là encore dans le débat, mais simplement ce que je veux dire, c'est que ce sont des débats plus compliqués que ne le dit la doxa ronronnante. Sartre, Camus, bien sûr que Camus a raison politiquement. Bien sûr que sur les camps de concentration, c'est lui qui voit juste. Évidemment qu'il est d'une noblesse incroyable dans le débat avec Sartre. Mais en même temps, je pense que la vraie philosophie antitotalitaire, celle qui permet véritablement de saper les fondations même de ce qu'on appelle le totalitarisme, bizarrement, et ça aussi, je crois que je le démontre dans ce livre, elle est plutôt du côté de Sartre que de Camus. Et il y a dans le camusisme, dans la part païenne de la pensée de Camus, dans cette idée d'une sorte d'assentiment au monde, il y a quelque chose dont je crois que métaphysiquement, ça désarme justement ce que lui-même Camus aurait appelé l'esprit de révolte ou de résistance.
Oui, mais en tout cas, quelles que soient les différences d'appréciation ou d'admiration qu'on peut avoir, ce sur quoi je vous suis entièrement, c'est la lutte contre la doxa. Parce que d'une certaine façon, à cause du système médiatique, à cause du nivellement des cultures, etc., le monde moderne devient oppressant de doxa, si j'ose dire. Là, les débats sont ramenés
à des slogans.
Des simplifications. On ne voit jamais les choses dans leur complexité. Voilà. J'ai bien vu, chaque fois qu'on vous dit « vous êtes de gauche », vous avez l'hésitation raisonnable qui consiste à dire « on ne peut pas se réduire à une proposition ou à une position géométrique ou géographique », et ainsi de suite. Donc le drame un peu des sociétés occidentales aujourd'hui, c'est cette impossibilité d'élever les discussions, de les rendre plus complexes, etc. C'est peut-être lié aux sociétés démocratiques, mais enfin...
Alors, comme l'heure tourne et que le livre est foisonnant et on pourrait aborder mille autres thèmes, avant que nous nous séparions de Bernard-Henri Lévy, je voudrais quand même l'interroger sur ce gros morceau dans le livre, ce livre dans le livre qui est intitulé « Le génie du judaïsme » et qui correspond en même temps à une évolution de votre part, à une comme si vous étiez aimanté en quelque sorte, alors qu'au départ, vous le dites vous-même, vous êtes assez étranger à la fois à la religion, en même temps à ce qui peut être... l'attrait du judaïsme, tout simplement. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris chez vous. On peut comprendre, par exemple, chez Alain Finkielkraut, quand il parle de l'Alia, c'est-à-dire le retour en terre d'Israël, sur lequel il a parlé et écrit. Mais venant de vous, vous en parlez et vous mettez quand même un point d'interrogation. Et vous dites presque peut-être. Et ça m'a énormément surpris et m'a paru assez, au fond, contraire à ce que vous êtes, au fond, à ce que vous portez. Alors donc, votre attirance aujourd'hui vers le judaïsme peut aller jusque-là, Bernard-Henri Lévy ?
J'ai dû dire quelque part, oui, dans ce livre, que cela n'était pas impensable.
Il y a le mot peut-être. Enfin, peut-être.
Oui, bon. Oui, oui. Voilà. Il y a des choses dont je sais qu'elles n'arriveront pas dans le temps de vie qui me reste. Il y a des choses dont je pense qu'elles ne m'arriveront pas non plus, mais enfin qui ne sont pas totalement exclues. Vivre à Jérusalem. C'est pas totalement exclu, mais c'est pas non plus totalement neuf, Jean-Marie Colombani. J'ai écrit il y a 25 ans un roman qui s'appelait Le Diable en tête, et qui était comme souvent les romans, qui était une projection de moi-même, et qui se terminait à Jérusalem. Le personnage principal du livre allait mourir à Jérusalem. Donc c'est quelque chose que j'ai en tête depuis toujours. Et pour des raisons, je ne sais pas d'Alia, pour des raisons, je crois, très, très, très fondamentales. Pour moi, Jérusalem, c'est la ville, où, c'est le lieu du monde, où, comme disait mon ami disparu, Benny Lévy, on étudie le mieux le Talmud, par exemple. C'est le lieu où l'on se sent le plus près, pas d'une certaine religion, c'est pas, le judaïsme n'est pas réductible à la catégorie de religion, mais d'un certain rapport au texte qui là m'importe quand je parle de génie du judaïsme. Voilà. Cela dit, je vous rassure, je suis un Français très heureux de l'être. On me demande dans un des textes là, qui sont dans ce livre, est-ce que vous êtes fier d'être Français? Et je réponds, je suis heureux d'être Français. Je ne suis pas fier d'être Français. Il n'y a pas motif à être fier de
cela. Ça dépend de la période que l'on regarde.
Oui, ça, aujourd'hui...
C'était la réponse toujours de François Mitterrand.
On peut transposer cette expression en français, une histoire juive classique. C'est, je suis fier d'être français. De toute façon, si j'étais pas fier, je serais français quand même. Donc
voilà, mais naturellement, exactement. Et c'est tout le débat d'ailleurs sur la tout le débat sur la nationalité. Par
mais,
parenthèse.
Si.
Mais voilà, donc c'est pas nouveau. Alors c'est vrai en revanche que j'approfondis cela. Et c'est vrai que ces 300 ou 400 pages du livre qui s'appelle Le génie du génie, elles sont pas là pour rien. J'aurais pu en faire un livre à part entière, je ne l'ai pas fait par modestie, parce que je le ferai peut-être un jour.
Bien sûr, parce que...
Oui, c'est des questions extraordinairement compliquées, où j'ai l'impression de m'affronter à l'essentiel. Le débat entre Lévinas et Rosenzweig sur la question de l'universel, par exemple, auquel je consacre une cinquantaine de pages. Bon, moi, j'ai l'impression là d'être, pour la première fois de ma vie, peut-être au contact de questions qui m'habitent secrètement depuis longtemps et où je commence de voir un peu clair. Mais quand je dis génie du judaïsme, bon, c'est un titre démarqué, évidemment
du génie Chateaubriand,
mais oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le judaïsme n'est pas l'affaire des seuls juifs. Dire génie du judaïsme, ça veut dire il y a pour tous les hommes... un apport possible, des valeurs à prendre, un dialogue fécond. Je plaide pour ça. Je ne dis pas, dans le rapport d'ailleurs entre la vieille question Athènes et Jérusalem, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que Jérusalem a à dire à Athènes, les réponses que Jérusalem peut apporter à la crise de l'esprit athénien, c'est-à-dire à la crise de la philosophie occidentale moderne qui s'épuise à partir d'Heidegger. Donc génie du judaïsme, c'est pas un réflexe d'enfermement, c'est au contraire un geste d'ouverture.
Oui, Jean-Claude Casanova.
Je crois, d'une certaine façon, j'ai été frappé que vous utilisiez le mot identité dans votre pièce d'identité. Bon, très fortement, votre identité juive apparaît et vous m'avez fait penser à un texte assez beau, d'ailleurs d'un grand historien juif israélien qui aimait beaucoup Aaron, Talmon, justement, qui n'aimait pas du tout le jacobinisme, lui. Et Talmon, dans un très beau texte, dit au fond, un juif veut absolument conserver son identité et il veut en même temps que soit respecté et bénéficier des droits universels. Mais ce qu'exprime le juif dans cette attitude, parfaitement légitime et parfaitement compréhensible, c'est la condition humaine, tout simplement. Tous les hommes veulent conserver leur identité et tous les hommes veulent bénéficier de droits universels. Simplement, le juif, si j'ose dire, historiquement et philosophiquement, à la fois pour des raisons religieuses et pour des raisons qui tiennent à l'histoire et à la persécution des juifs, etc., le juif l'exprime plus intensément et d'une certaine façon, et je l'ai éprouvé comme ça en vous lisant ce texte, dans cette relation du particulier à l'universel.
Sauf que moi, ça n'a pas de rapport avec la persécution, parce que la persécution, je ne l'ai jamais éprouvée. Je viens d'une famille où elle n'a pas été tellement une question. Moi, mes parents n'étaient pas des victimes. Mon père n'était pas une victime, c'était un combattant. Donc moi, je ne pars pas...
Mais vous ne voulez pas renoncer à la particularité.
C'est pas ça. C'est que je pense que ce serait un appauvrissement spirituel de l'humanité...
Absolument.
Que de renoncer à cette singularité qu'est le judaïsme. Et je pense que mes ancêtres, les juifs extraordinairement, ce qu'on appelait les israélites français d'autrefois, en rabotant le judaïsme en eux, ils appauvrissaient la culture française, la culture européenne, la culture mondiale, l'esprit d'Athènes et de Rome, d'un fil essentiel, d'un élément fondamental de son intrigue et de sa trame. Donc moi, c'est quand je dis génie du judaïsme, c'est à ça que je pense. Je ne dis pas je veux les droits universels. On n'est plus dans les histoires Clermont-Tonnerre, Abbé Grégoire, etc. Je ne dis pas tous les droits universels et en même temps la particularité. Judaïsme, pour moi, ce n'est pas une particularité. C'est à des questions essentielles que se pose l'humanité, des réponses complètement différente de celle qu'apporte la philosophie, est souvent totalement occultée. Alors elle commence d'être désocultée depuis Rosenzweig, Lévinas et quelques autres. Mais enfin, je suis heureux dans ce texte de continuer ce travail de désoccultation. Mais pour moi, c'est de la philosophie. Et lorsque je dis génie du judaïsme, c'est toujours la vieille question Athènes ou Jérusalem que je pose à nouveau frais.
Oui, bien sûr.
Jean-Claude Casanova.
Non, mais ça, je comprends tout à fait cette attitude. Et même d'une certaine façon, c'est l'honneur de la fidélité juive, si vous voulez. C'est la volonté de persévérer parce que l'on est porteur d'un message que les religieux considéreront comme religieux et que les non-religieux ne considéreront pas comme religieux. Mais en même temps, vous voyez bien la difficulté, puisqu'on a sans arrêt parlé d'Aaron. Il y avait dans la conversation avec lui sur le judaïsme, et il disait il y a trois façons d'être juif. On peut être un juif religieux, on peut être un juif chrétien, en disant que le christianisme est tout simplement l'apothéose du judaïsme, comme Bergson ou Simone Veil, et on peut être spinoziste, mais si on est spinoziste, on renonce à la mission spécifique du judaïsme, d'une certaine façon. Il n'y a plus de peuple élu. Alors, oublions le peuple élu, qui est une affaire d'esprit religieux, mais il y a le peuple singulier qui considère que, dans le débat universel, il a quelque chose de spécifique et de profond à porter, comme vous dites, Jérusalem vis-à-vis d'Athènes. Voilà. Athènes a son propre message avec sa grandeur et ses limites, bien sûr, mais de ce point. Mais ça implique, si vous voulez, ça implique une société démocratique qui accepte les pluralités d'identité.
Bernard-Henri Lévy,
c'est la raison pour
d'accord avec cette dernière définition.
Oui, c'est la raison pour laquelle mon livre s'appelle Pièce d'identité au pluriel. Voilà. J'ai hésité à l'appeler comme ça, évidemment, notamment.
Mais votre titre me plaît beaucoup. Au moment, voilà, c'est la vraie réponse au débat
voilà,
sur l'identité.
Au moment de ce débat sur l'identité, ce débat mal foutu, malvenu, peu opportun, etc., et dont heureusement il semble que les dirigeants soient en train de comprendre que c'était l'affaire était mal emmanchée. Mais justement, je me suis dit, au fond, on ne va pas leur laisser le mot d'identité. On ne va pas le laisser emprisonner dans ces discours absurdes et réducteurs. Donc, pièce au pluriel d'identité. Et heureusement qu'on est dans des sociétés démocratiques, qui manquerait plus que ça, mais heureusement qu'on y est, où en effet, l'esprit laïque auquel je suis, alors y compris dans ce livre, autant que quiconque et plus que beaucoup attaché, n'empêche pas d'aller chercher dans les textes de la tradition juive tout ce qui y permet de lutter contre les idoles modernes, contre les paganismes contemporains, contre les néo-totalitarismes, et ainsi de suite. C'est à ça que me sert le judaïsme.
Mais laïcité au sens de liberté de la pluralité et pas du tout au sens d'imposer une unité factice.
Ni imposer une unité factice, ni même d'ailleurs laisser toutes les pluralités s'exprimer, parce que il y a des pluralités criminelles, il y a des pluralités qui impliquent qui impliquent virtuellement et la destruction de l'espace public, etc. Ça, c'est le grand débat où les cultures anglo-saxonnes se sont empêtrées, dont elles commencent de sortir. Le moment où l'esprit de tolérance l'emporte sur l'esprit de laïcité, avec des conséquences qui peuvent être meurtrières. La mort de Théo Van Gogh, par exemple.
C'est particulièrement en voie du Canada, par exemple, qui commence en effet à réfléchir et à remettre en cause un certain nombre de choses. Concrètement, sur des points d'application concrets, Bernard-Henri Lévy, vous êtes pour une loi sur la burqa? Application justement de tout le raisonnement que vous venez de conduire.
Je suis de ceux qui pensent que la burqa n'est pas un signe religieux mais une affaire politique. Je pense que c'est le signe d'une oppression insupportable des femmes. Et je pense que même s'il y en a peu, parce que ce n'est pas une raison de dire qu'il n'y en a que 1000 ou qu'il y en a 2000, même s'il y en a peu, il faut en effet, d'une manière ou d'une autre, législative ou réglementaire, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de burqa en France. Quand les gens disent « mais attendez, ça va s'arranger tout seul, il y en a si peu », c'est comme si on disait, sous prétexte qu'il n'y a que, je ne sais pas moi, que trois braquages de banque, ou sous prétexte que la liberté de la presse est très très peu menacée, qu'il est extrêmement rare qu'un État s'en mêle, il faudrait cesser de la défendre. Non, on défend des principes. Le principe de la dignité des femmes, le principe de l'égalité des hommes et des femmes, de l'égal droit de montrer leur visage des uns et des autres, est un principe absolu. N'y aurait-il qu'une exception qu'il faudrait tout faire pour... qu'il faudrait s'atteler à la rendre impossible. Alors après, que ça soit une loi, que ça soit des réglementations existantes appliquées avec plus de rigueur, ça c'est une question politique. Mais sur le principe, je crois que par exemple l'attitude d'Olivier Besancenot lançant son opération de reconquête de quartiers difficiles en manipulant et en se croyant malin probablement, en manipulant ce signe politique-là, est une attitude pour le coup très irresponsable.
Voilà cette petite incursion dans l'actualité. Oui, Jean-Claude.
Avec deux limites, si vous voulez, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je n'irai pas peut-être aussi loin parce que, premièrement, le principe de la liberté de se vêtir comme on veut existe. Donc, il faut faire attention dans la législation en matière de liberté individuelle. Et en second lieu, il y a quand même le risque dans une législation sur la burqa de son interprétation, de ce qu'elle est en partie, par le courant politique qu'il exprime, d'une volonté de stigmatiser les musulmans, qui aura des effets indirects graves, si vous voulez, qui justifiera une révolte ou une violence musulmane.
Donc, moi, je crois que c'est le contraire.
Il faut être prudent enfin, en cette affaire, si vous voulez. Il faut aller dans le sens que vous indiquez, mais avec beaucoup de prudence.
Comme dans tous ces débats-là qui sont des bâtons de dynamite, il faut être d'une prudence absolue. Mais ce que nous demandent les musulmans, enfin la majorité des musulmans français, ils nous demandent de ne pas céder sur ce principe-là. Et je crois que la vraie stigmatisation de l'islam, elle pourrait prendre des chemins beaucoup plus rusés, y compris le chemin des burqas acceptés.
Alors ça, c'eût été un autre thème de débat qu'on aurait pu d'ailleurs ouvrir à travers ces livres que vous venez d'éditer, Bernard Andrievi, mais évidemment, on ne pouvait pas tout traiter. Donc je renvoie simplement à la lecture de vos deux livres, De la guerre en philosophie, qui permet de comprendre l'engagement de l'intellectuel engagé précisément que vous êtes, et pièce d'identité au pluriel, les deux livres étant publiés chez Grasset, qui permet donc de revisiter notre histoire la plus récente. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Marie Colombani.